Bien, bonsoir à chacun et chacune. Nous abordons donc aujourd'hui le troisième volet de cette partie du cours consacrée à quelques thèmes de théologie comparée qui vise à la fois à donner une information de base, mais aussi à arpenter les grands sentiers de la cohérence à la fois religieuse et théologique de l'islam et de s'y familiariser. Après Bible et Coran et la figure d'Abraham la semaine dernière, nous abordons aujourd'hui les figures de Jésus et de Marie qui nous intéressent particulièrement comme chrétiens et qui tiennent aussi une place non négligeable dans le Coran et la tradition musulmane, même si c'est une place limitée dans la mesure où 114 sur les 114 sourates, 15 seulement mentionnent le nom de Jésus et lui consacrent 93 versets sur les 6226 versets que compte le Coran, tandis que Marie est citée 14 fois, principalement dans deux sourates, la sourate de la famille de Imran et la sourate Marie. Comme vous le voyez sur la feuille de route, notre soirée se développera en trois grandes parties. Une première au cours de laquelle je vais essayer de vous présenter sommairement le récit, le schéma de la vie de Jésus et de Marie tel que le Coran et la tradition nous les présentent. Puis nous reprendrons de façon plus synthétique quelques points focaux au niveau de ce que j'ai mis entre guillemets une christologie ou une mariologie coranique. Et enfin, nous terminerons par la mention de quelques interprétations ultérieures et différentes, marginales, mais qui existent néanmoins, de la figure du Jésus du Coran dans le monde de l'islam. La vie de Jésus et de Marie, d'après le Coran et la tradition, comme pour les autres récits, les données du Coran sont de façon générale très souvent elliptiques et allusives. Et aussi les commentaires du Coran et les hadiths s'emploient-ils à remplir les vides narratifs que présente le texte coranique ou apporter quelques éclaircissements ou explications. Ce que je vais vous présenter ce soir, ce sont d'une part les données coraniques, complétées alors par principalement par des éléments du tafsir, du commentaire coranique et des annales de Tabari qui rapportent les principales opinions et traditions anciennes concernant Jésus et Marie. Donc la présentation ne sera pas pleinement exhaustive, mais les éléments principaux seront présents. Lorsque l'on aborde la vie de Jésus et Marie d'après le Coran et la tradition, je l'ai divisé, vous le voyez sur la feuille de route, en quatre chapitres, en quatre points. Tout d'abord, Zacharie et Jean-Baptiste et la naissance de Marie. La sourate 3 mentionne la famille de Imran que Dieu s'est choisi à la suite d'Adam, Noé et de la famille d'Abraham. Le récit nous dit que la femme de Imran consacra par vœu au Seigneur l'enfant qu'elle attendait. Or, elle mit au monde une fille, mise sous la protection d'Allah contre Satan, qu'elle appela Marie, Maryam, dans l'arabe coranique. Le Seigneur recueillit l'enfant et la confia à Zacharie. Et chaque fois que Zacharie entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait chez elle une subsistance nécessaire lui venant de Dieu. Et ce voyant, Zacharie, dans sa prière, invoqua son Seigneur pour qu'il lui accorde un descendant alors qu'il était âgé et sa femme stérile. Le Seigneur lui promit la naissance d'un fils, du nom de Jean, et lui donna pour signe le mutisme qui le frapperait pendant 3 jours. Le Coran souligne encore les qualités de Jean et annonce qu'il déclarera véridique le verbe d'Allah. Voilà les données coraniques relatives à Zacharie, Jean-Baptiste et la naissance de Marie. Le Tabari, dans son commentaire, apporte quelques précisions. Il nous dit que Zacharie et Imran étaient mariés à 2 sœurs, parce qu'on voit apparaître Zacharie à qui est confiée la petite Marie, on ne sait pas très bien pourquoi. Zacharie et Imran étaient mariés à 2 sœurs, respectivement la mère de Jean et de Marie. Anne, femme de Imran, déjà âgée, n'avait pas d'enfant. Et voyant un jour un oiseau qui nourrissait sa couvée, elle désira un enfant et invoqua Allah de lui en accorder un, qu'elle vouerait à la garde du temple et à son service. Or, seul un garçon pouvait faire l'objet d'un tel vœu, et elle mit au monde une fille, à laquelle elle donna le nom de Marie, qui a, nous dit le commentaire, le sens de Abida, c'est-à-dire la dévote. Et Zacharie fut, d'après ce commentaire, désigné par le sort pour prendre Marie en charge à sa naissance, suite à la mort de Imran, donc son père, pendant que sa femme était enceinte. Lorsque Marie grandit, Zacharie fit construire pour elle une cellule dans le temple, à laquelle lui seul accédait, et la nourriture qu'elle recevait trouve encore un plus belle description dans le commentaire de Tabari, puisqu'il nous dit que chaque fois qu'il la visitait, il voyait chez elle des fruits d'hiver en été et des fruits d'été en hiver. Et il lui demandait « D'où cela te vient-il » et Marie répondait « Cela vient d'Allah ». Et c'est à cette occasion alors que Zacharie adressa sa prière pour avoir une descendance, car, se dit-il, celui qui fait cela pour Marie sera bien capable de vivifier les entrailles de mon épouse pour enfanter. Tabari donne encore les généalogies davidiques de Joseph et de Marie, qui étaient déjà destinées à être l'épouse de Joseph. Il signale la naissance de Jean, qui reçut dès l'enfance le don prophétique et s'en alla dans la solitude pour parvenir jusqu'en Syrie, appelant les hommes à la foi. Tabari nous précise aussi que Jean rencontra ensuite Jésus et le baptisa, et il rapporte différents récits sur la mort de Jean, décapité par le roi à la demande de sa nièce qu'il voulait épouser contre la vie de Jean. Et cette mort est accompagnée du prodige du bouillonnement d'une goutte de sang tombée à terre. Donc vous voyez un petit peu le fonctionnement, hein, donc des données coraniques assez elliptiques, et puis un commentaire qui complète le récit, ben, en recourant finalement à des données, soit des évangiles canoniques, soit des évangiles apocryphes qui étaient également connus. Zacharie et Jean-Baptiste, c'est la naissance de Marie. Puis deuxième étape, c'est l'annonce à Marie et la naissance de Jésus. Données coraniques, l'Esprit d'Allah fut envoyé à Marie sous la forme d'un humain accompli pour lui donner un garçon pur, un verbe de lui. C'est un des noms de Jésus sur lequel il nous faudra revenir tout à l'heure. Son nom est le Messie, Jésus, fils de Marie. Et à l'objection de Marie que nul homme ne l'a touché, il répond qu'Allah crée ce qu'il veut. Quand il a décrété une affaire, il dit « soit » et aussitôt, elle est. Allah, ou son envoyé, plutôt, souffla en elle de son esprit. Marie conçut et se retira en un lieu éloigné. Et elle mit au monde son fils au pied d'un palmier. Ce n'est pas la crèche de Bethléem. Le Seigneur mit à ses pieds un ruisseau et des dattes fraîches sur le palmier. Et lorsqu'elle revint chez les siens portant l'enfant, Marie fut l'objet de vifs reproches. Elle fit signe vers le nouveau-né qui dit « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné l'écriture et m'a fait prophète. Il m'a béni où que je sois et m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je serai en vie et la piété envers ma mère. Il ne fit point de moi un tyran rebelle et que le salut soit sur moi. » On voit donc que c'est l'enfant Jésus qui disculpe sa mère face aux reproches qui lui sont adressés lorsqu'elle revient portant un nouveau-né. Dans le commentaire de Tabari, il y a tout d'abord l'identification de l'envoyé à Gabriel. Il place la scène de l'annonce à Marie au moment où Marie a donné avec son cousin Joseph au service du temple parti chercher de l'eau. Et lorsque Marie fut enceinte, Joseph fut le premier à se rendre compte de son état. Il en fut scandalisé et peiné. Il ne savait comment lui en parler. Et Tabari rapporte alors, dans les termes que je vais vous lire, un beau dialogue entre Marie et Joseph qui nous fait entrer, je crois, au cœur de ce qui est la perception religieuse de l'islam, et en plus c'est un beau texte. Donc lorsque, ne pouvant plus contenir sa peine, Joseph lui en parla, sa première parole fut de l'interroger. Il m'est survenu à ton sujet une pensée que j'ai voulu étouffer et taire, je n'y ai point réussi. Parle donc, dit-elle, et tiens-moi un bon propos. « Je ne veux point en tenir d'autres, reprit-il, mais dis-moi, un blé peut-il pousser sans semence ?»« Oui, répondit Marie. « Et un arbre, continua-t-il, peut-il croître sans pluie ?»« Oui, fit-elle. « Et un enfant, demanda-t-il encore, peut-il être conçu sans père ?»« Oui, répondit enfin Marie. Ne sais-tu pas qu'Allah, quand il a créé le blé, il le fit pousser sans semence, car la semence vient elle-même du blé. Ne sais-tu pas aussi qu'Allah créa les arbres sans la pluie, et que, par la même puissance, il fit la pluie pour vivifier les arbres après avoir créé les deux séparément. Ou bien diras-tu qu'Allah n'a pu faire pousser les arbres sans le secours de la pluie? Sans la pluie, il n'aurait donc pas pu faire croître les arbres ? Non, répondit Joseph, je ne dis point cela, mais je sais plutôt qu'Allah peut tout ce qu'il veut. Il lui suffit de dire « soit » et une chose est. Ne sais-tu pas, continua Marie, qu'Allah créa Adam et Ève sans le secours d'un homme et d'une femme ? Il répondit oui, « si, bien sûr ». Lorsque Marie eut dit cela, Joseph comprit que son état résultait d'une intervention d'Allah et qu'il ne pourrait l'interroger à ce sujet, car il constata qu'elle tenait à en garder le secret. Donc un beau dialogue, mais en même temps qui nous fait bien percevoir l'enjeu différent autour de la naissance de Jésus. Ainsi, la virginité de Marie dans le Nouveau Testament pointe la filiation divine de Jésus, vise à dire que Jésus est fils de Dieu. Ici, il s'agit simplement de souligner que Dieu est tout-puissant. Donc, sur un même schéma narratif, pourrait-on dire, on a deux interprétations religieuses qui sont très différentes. Donc, c'est là que je crois important dans la rencontre de toujours bien percevoir les cohérences religieuses qui se sont exprimées, même si sur le plan narratif, on peut avoir à première vue une impression de récit assez proche l'un de l'autre. Les savants musulmans ne sont pas d'accord sur la durée de la grossesse de Marie, de 9 mois, le plus courant, à 1 heure. Lorsque Marie fut sur le point d'enfanter, Dieu lui révéla de quitter le pays pour protéger l'enfant de son peuple qui le tuerait. et Joseph conduisit Marie en Égypte sur le dos de son âne. Marie enfanta près d'un palmier, à la frontière de l'Égypte, entourée par les anges. À la naissance de Jésus, toutes les idoles de la terre se renversèrent. Satan, qui avait été, contrairement aux autres naissances, tenu dans l'ignorance de la naissance de Jésus, tenta de parvenir jusqu'à lui, mais des rangées d'anges l'en empêchèrent. Tabari connaît aussi un récit analogue à celui de l'Évangile concernant la visite des mages. Le Coran mentionnait le miracle par lequel Jésus innocenta sa mère des soupçons des Juifs lorsqu'il parla au berceau, et la tradition musulmane, elle, multipliera les interventions miraculeuses de Jésus, enfant, sur le chemin de la fuite, durant son séjour en Égypte, à temps et à contre-temps, pour tirer d'une situation embarrassante, pour rire ou faire rire, ou pour faire sécher des larmes, pour s'amuser avec des compagnons, ou pour étonner les grandes personnes, pour guérir les malades, ou ressusciter les morts. Les occasions ne manquent pas pour l'enfant Jésus, dans le développement par la tradition, de faire de nombreux miracles. Revenu d'Égypte, Jésus reçut la révélation lorsqu'il eut atteint l'âge de 30 ans et prophétisa pendant 3 ans. Donc on voit là que Tabari récupère le récit traditionnel des évangiles canoniques, alors que le Coran n'entrait pas dans ces précisions. Après la naissance et l'enfance de Jésus, quelques mots sur sa mission. Jésus, Issa, dans l'arabe coranique, est un envoyé d'Allah, assisté de l'esprit de sainteté, Ruh al-Qudusi, et à qui les éclaircissements, bayanat, ont été donnés. Il est venu avec des signes du Seigneur, la création d'un oiseau avec de l'argile, la guérison de l'aveugle et du lépreux, la résurrection des morts, la révélation de ce que les gens mangent et amassent dans leur maison. À la demande de ses apôtres, il fait descendre du ciel une table qui constitue pour eux une fête, une nourriture et une preuve. Un texte qui sera interprété par Massignon, dont nous parlions la semaine dernière, comme une image eucharistique. Et tous ces signes, insiste le Coran, tous ces miracles, sont faits avec la permission de Dieu. Nous reviendrons sur cette question car elle est importante. Hein, autant les miracles dans la tradition évangélique visent l'identité divine de Jésus, autant les miracles dans la tradition coranique et musulmane sont faits avec la permission de Dieu et n'établissent pas Jésus dans un rang privilégié, nous y reviendrons. Jésus déclare véridique la Torah et il déclare licite une partie de ce qui était interdit. Le centre de son message est d'adorer Allah, Dieu, mon Seigneur et votre Seigneur. Allah lui a donné l'Évangile, c'est le nom de la révélation qui est donnée à Jésus, où il y a direction et lumière, nous dit le Coran. Il éclaircit une partie de ce en quoi les gens divergent. Sur l'ordre de Dieu, il respecte la prière et l'aumône. Il n'est qu'un envoyé de Dieu. Il n'est pas un dieu, il rencontre l'incrédulité, mais les apôtres acceptent son message. Voilà les principales données coraniques qui ont été explicitées et amplifiées par la tradition. Tout d'abord, la qualité thaumaturgique de Jésus est fortement encore amplifiée par la tradition. Jésus est dans la tradition, tant dans la tradition que dans le Coran, le personnage qui fait le plus de miracles. Zamar Shari, qui est un des plus fins commentateur du Coran, dira que Jésus guérit 5000 infirmes en parcourant en un seul jour 5000 villages différents. Donc la qualité thaumaturgique de Jésus est portée à l'extrême. L'explication habituelle de ce pouvoir est que Jésus faisait ses miracles avec la permission d'Allah. L'insistance à la différence du point de vue chrétien porte sur la dépendance et l'infériorité de Jésus par rapport à Dieu. Comme ses prédécesseurs, sur la voie prophétique, Jésus est un prophète, Jésus a connu l'opposition et l'incrédulité. Comme ses prédécesseurs, il a eu des auxiliaires, croyants de la première heure, chargés de soutenir l'envoyé au fils d'Israël. Le Coran les mentionne sous le nom de Hawari, sans spécifier nommément aucun d'eux. Le mot évoque dans la langue arabe l'idée de blancheur, d'où l'effort des exégètes de le rattacher à des faits historiques précis, soit en disant que ce sont les blancs ou les purs, parce qu'ils étaient des teinturiers, des laveurs, rendant blancs les vêtements, ou parce qu'ils avaient les cœurs et les intentions pures. D'autres exégètes connaissent la tradition chrétienne et disent qu'ils furent pêcheurs ou marins. Donc Jésus, vrai prophète, envoyé par Dieu, connaît l'opposition, a des convertis de la première heure, et le statut des miracles qu'il opère est bien d'être le signe prophétique que Dieu lui donne pour authentifier sa mission. Chaque prophète reçoit de Dieu un signe prophétique qui permet d'identifier sa mission, d'authentifier sa mission. Pour Jésus, c'est sa qualité thaumaturgique. Pour Mohammed, c'est le Coran lui-même qui est le signe prophétique qui vient authentifier sa mission. La tradition connaît également tout un développement sur l'enseignement de Jésus. Et la majeure partie de cet évangile islamique est occupée par une série de thèmes récurrents. L'adoration exclusive d'Allah, la pauvreté, le détachement de cette vie, la dénonciation des fausses sagesses et des sécurités trompeuses. Donc dans la tradition, très rapidement, Jésus prend un profil semi-ascétique qui sera amplifié alors, comme nous le verrons, dans la tradition mystique en particulier. Après la mission de Jésus, il faut maintenant envisager la fin de Jésus sur terre et la question de son retour. Nous trouvons dans le Coran les données suivantes sur la fin de la vie de Jésus. Les fils d'Israël machinèrent contre Jésus, mais Allah machina contre eux, et il est le meilleur de ceux qui machinent. Rappelle quand Allah dit « Ô Jésus, je vais te rappeler à moi, t'élever vers moi, te purifier de la souillure de ceux qui sont incrédules, et jusqu'au jour de la résurrection, mettre ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui sont incrédules. Ensuite, vers moi sera votre retour, et je déciderai entre vous tous sur ce sur quoi vous vous opposiez. » Coran, sourate 3, les versets 54 et 55. Ici, je cite un peu plus longuement, puisqu'on touche à des questions fort délicates pour les chrétiens. La sourate 4, nous lisons, nous les avons maudits à cause de leur incrédulité, pour avoir dit contre Marie une immense infamie. C'est les accusations portées contre Marie au moment de la naissance de Jésus. Et juste après, pour avoir dit, nous avons tué le Messie, Jésus, fils de Marie, l'apôtre d'Allah. Donc les Juifs sont maudits par Dieu dans ce texte pour leur infamie contre Marie et pour avoir dit qu'ils ont tué Jésus. Alors, poursuit le texte, qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Dans le syllabus, j'ai pris la traduction la plus courante, qui est de dire « mais que son sosie a été substitué à leurs yeux ». Le texte arabe est en fait beaucoup moins précis, puisqu'il dit simplement « wa shubbiha lahum ». Donc c'est une forme passive du verbe « sembler ». Donc « il leur a été semblé », devrait-on traduire littéralement. Alors qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais qu'il leur a été semblé. Terme difficile, évidemment, à traduire et à interpréter. Et le texte se poursuit. En vérité, ceux qui s'opposent à l'égard de Jésus sont certes dans un doute à son endroit. Ils n'ont nulle connaissance de Jésus, ils ne suivent que conjectures et n'ont pas tué Jésus en certitude. Yaqinan. Tout au contraire, Allah l'a élevé vers lui. Allah est puissant et sage. Il n'est personne parmi les détenteurs de l'Écriture qui ne croit certes en lui avant sa mort et au jour de la résurrection. Jésus sera témoin à leur rencontre. Et à la sourate 43, nous avons un petit verset aussi, verset 61, qui dit que Jésus est la science de l'heure. Il me sait. Donc l'heure, c'est l'heure de la fin du monde. Et donc Jésus est relié par là au signe avant-coureur de la fin. Voilà les données coraniques dont nous disposons. Vous conviendrez qu'elles sont pour le moins incomplètes, ne permettent pas une interprétation stricte, si ce n'est qu'il y a en tout cas l'affirmation claire que Jésus n'a pas été tué. Ça, c'est l'affirmation claire. Sur base de ces versets, la pensée traditionnelle de l'islam nie bien sûr la réalité historique de la crucifixion et elle interprète le terme difficile « shubbiha lahum », il leur a été semblé, dans le sens suivant. Jésus n'est pas mort sur la croix, il a déjoué les plans perfides de ses détracteurs. Ces derniers ont crucifié sa ressemblance, son sosie, tandis que Jésus était élevé vers Allah. Et l'essentiel pour la tradition consistera alors à essayer de découvrir l'identité de ce sosie. Est-ce un disciple volontaire? Est-ce un disciple déserteur qui fut ainsi châtié? Est-ce un dénonciateur juif? Différents noms ont été proposés, mais aucun ne s'est imposé de façon définitive. Deux autres versets de lecture difficile sont interprétés comme relatifs à la descente de Jésus à la fin des temps. Dans l'un, il est dit que Jésus est la science de l'heure. Dans l'autre, il est affirmé qu'il n'est personne parmi les gens de l'Écriture qui ne croit en lui avant sa mort. Alors, toute la question qui se pose dans une des difficultés de ce verset-là, qu'il ne croit en lui avant sa mort, de la mort de qui s'agit-il? S'agit-il de la mort de Jésus ou de la mort de celui qui croit en lui? De l'homme de l'Écriture. S'il s'agit de la mort de Jésus, Jésus qui avait été élevé au ciel, qui n'avait pas été tué sur la croix, devrait donc revenir sur terre pour goûter à la mort. Et c'est ce que l'islam traditionnel a compris, en reconnaissant toutefois le caractère ambigu des deux versets. La fin des temps est toute centrée sur l'idée de justice, et autour de cette notion, un combat invisible pose Satan à Allah. Et ce combat est représenté sur le plan visible par la lutte de Jésus contre l'Antichrist qui est l'incarnation de l'impiété. La littérature religieuse traditionnelle a catalogué les signes de la fin du monde. les conditions de l'œuvre. Et elle en a relevé 10 qui se succéderont sur un ordre mal déterminé qui varie d'un auteur à l'autre. Seul l'ordre des 3 derniers signes est assez bien établi. Il s'agit d'abord de l'apparition du faux Messie, de l'Antichrist, suivi de la descente de Jésus au camp de l'armée musulmane. La lutte opposera alors Jésus et les derniers croyants aux monstres Gog et Magog qui envahiront la terre. Allah, sur la prière de Jésus, les exterminera, et c'est l'ère d'une durée imprécise, d'une paix messianique. Jésus sera le juge, l'arbitre, qui remplira la terre de justice, comme elle avait été remplie d'iniquité. Il se mariera, aura des enfants, et mourra en bon musulman. Il sera enterré dans la grande mosquée de Médine, entre Mohammed et Abou Bakr. Au jour du jugement, lorsqu'Allah lui demandera compte de sa mission sur terre et du message qui lui a été confié, Jésus niera qu'il ait jamais prétendu être avec sa mère de Dieu aux côtés d'Allah. C'est le thème ne dites pas 3. Donc, cette dénégation de l'affirmation chrétienne trinitaire, mais avec une représentation sous-jacente où la Trinité n'est pas le Père, le Fils et l'Esprit, mais bien le Père, Marie et Jésus. Donc c'est la représentation sous-jacente à la dénonciation coranique de la Trinité. Ce que j'ai relevé ici sur le rôle eschatologique de Jésus se retrouve principalement dans la tradition sunnite, parce que dans la tradition chiite, il y a... Ce rôle eschatologique de Jésus est remplacé par celui du Mahdi, c'est-à-dire cet imam caché qui doit revenir à la fin des temps et qui est de la descendance de Mohammed par sa fille Fatima et son gendre Ali. Voilà un schéma rapide des données à la fois coraniques et traditionnelles au niveau du récit. Ainsi, vous avez une idée rapide de la structure du récit de présentation des personnes de Jésus et de Marie dans le Coran et la tradition musulmane. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est relever 3 thèmes de ce que j'ai mis entre guillemets, christologie et mariologie coranique. Donc reprendre 3 éléments de ce que nous avons vu dans ces récits. Il y a tout d'abord la question des noms de Jésus et de son identité. Bien que du point de vue de la foi musulmane, Jésus ne soit qu'un prophète, un homme comme les autres, le Coran utilise à son égard un ensemble d'expressions qui ne sont utilisés pour aucun autre prophète, pas même pour Mohammed qui clôt la révélation. Nous pouvons en relever 11, Messie, El-Massih, 11 fois, qui n'a pas la signification technique qu'il a dans la tradition judéo-chrétienne, c'est pratiquement le nom propre de Jésus, Issa el Messie, Jésus le Messie. Prophète, envoyé, fils de Marie, 33 fois. Jésus est présenté comme le fils de Marie. Parmi les rapprochés de Dieu, digne de considération, béni, parole sûre, serviteur de Dieu, assisté de l'Esprit Saint, parole de Dieu, kalimatuhu. Donc par bien des côtés, Jésus apparaît comme un être unique dans toute la création, mais néanmoins est contre la doctrine chrétienne de l'incarnation et de la divinité du Christ, la foi musulmane affirme avec force qu'il n'est qu'un prophète et que les prophètes ne sont que des hommes. Il n'est qu'une créature et la façon de le créer ne lui donne aucun privilège de nature. Si aucun homme ne jouit d'une supériorité de nature, Dieu peut, par son libre choix, distinguer qui il veut et lui donner un rang qui le met au-dessus des autres. Mais on est renvoyé là au bon vouloir de la toute-puissance divine et non pas à une supériorité de nature de celui qui en est le bénéficiaire. C'est ce qu'on appelle en arabe le tafdil, hein, qu'on pourrait traduire par le fait de valoriser, hein, la valorisation. Il ne s'agit pas d'une qualité propre de l'individu, mais d'une expression du pur vouloir divin. Cette conception musulmane de l'absolue liberté du choix de Dieu permet de concilier sans difficulté le caractère exceptionnel de Jésus d'après les qualifications du Coran et le fait qu'il n'est qu'un homme, comme Moïse avant lui ou Mohammed après lui. Toutefois, c'est, comme nous le verrons plus loin, cette même conception du tafdil, de la valorisation, qui ouvre la voie aussi à d'autres interprétations de la figure de Jésus comme expression du libre vouloir divin à l'intérieur d'un système philosophique ou d'une spiritualité qui tente précisément de scruter ce vouloir divin. Ainsi, les qualités de Jésus ne disent rien sur la personne de Jésus, elles parlent néanmoins du vouloir divin, et quelqu'un qui voudrait s'intéresser à scruter ce vouloir divin à travers ce qui est dit de Jésus peut scruter, vouloir mieux comprendre dans sa spiritualité ou son système philosophique ce vouloir de Jésus. Ce vouloir de Dieu, pardon. Donc un premier point, hein, les noms de Jésus et son identité. Donc une identité particulière qui, d'un point de vue d'une théologie musulmane tout à fait classique, s'explique parfaitement par l'absolue liberté du vouloir divin, mais qui en même temps peut ouvrir, hein, à des interprétations plus larges pour ceux, hein, qui s'arrêteraient à ces éléments spécifiques de la révélation, ce qui en soi, nous l'avons vu, hein, n'est pas recommandé du point de vue musulman. Hein, toute interprétation d'un élément du texte coranique doit se faire en cohérence avec l'ensemble de la révélation. Hein, mais ça n'empêchera pas, comme nous le verrons, certaines figures, dont des figures mystiques, à s'intéresser à ces éléments. Je voudrais revenir un moment alors sur la question de l'élévation de Jésus. Comme nous l'avons vu, le texte coranique et la tradition affirment l'élévation de Jésus et nient sa crucifixion. La négation de la crucifixion de Jésus cadre tout à fait avec la conception musulmane de la vie des prophètes. Chargés par Dieu de la transmission d'un message, ils sont l'objet d'hostilité, mais toujours Dieu vient à leur secours. Dieu ne laisse pas tomber un de ses prophètes authentiques, même s'il est en but à l'hostilité de ceux qui reçoivent le message. Donc la négation de la crucifixion de Jésus dans une perspective de cohérence musulmane et coranique ne vise pas à ennuyer les chrétiens, mais au contraire à défendre la qualité prophétique de Jésus. Si ses adversaires avaient pu mettre Jésus à mort, cela mettrait en cause la qualité prophétique de Jésus, puisque Dieu n'abandonne jamais un de ses prophètes véridiques aux mains de ses ennemis. Dans le texte coranique, la négation de la crucifixion se situe dans un contexte de polémique anti-juive. les Juifs prétendant précisément avoir tué Jésus, fils de Marie, l'envoyé de Dieu. Et c'est cette prétention juive qui suscite la réaction du texte coranique. Or, ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Toutefois, nous l'avons vu, le verset coranique pose des difficultés d'interprétation dans son verset, dans la suite du verset, lorsque, à propos de cette illusion d'optique, hein, ce sosie ou cette illusion d'optique, il leur a été semblé, un sosie a été substitué. Dans son ensemble, la tradition a opté pour l'élévation de Jésus et la crucifixion d'un sosie dont l'identité a fait l'objet de nombreuses hypothèses. À côté de cette lecture plausible et la plus répandue, le texte laisse néanmoins un espace étroit pour une autre interprétation qui pourrait appuyer certains auteurs qui, comme nous le verrons, ne contestent pas la mort de Jésus sur la croix. L'illusion d'optique, alors, ne viserait pas tellement le fait, mais sur l'adéquation du fait à l'intention qui est poursuivie. Ils ne l'ont pas tué en réalité. On serait proche, mutatis mutandis, d'une théologie johannique, hein, où la croix est aussi l'élévation du Fils de l'homme dans la gloire. Hein, donc, texte uranique ne va pas dans ce sens-là, hein, mais l'interprétation de ces versets difficiles où on peut soit y voir la négation du fait, ce qui est en toute grosse majorité l'interprétation musulmane traditionnelle, soit la mise en question de l'adéquation de l'intention par rapport à ce qui est réalisé. Cette lecture serait corroborée par la finale du verset « Ils ne l'ont pas tué en toute certitude ». Il n'en reste pas moins que cette lecture reste tout à fait différente de la conception chrétienne de la kénose du Christ dans un cadre de rédemption. Même cette lecture-là reste une lecture très différente de la lecture chrétienne de la crucifixion. Quelques mots à propos de Marie. La tradition musulmane relativement discrète sur Marie n'en développe pas moins des éléments qui méritent d'être mentionnés. Outre les développements polémiques contre une conception soi-disant chrétienne qui compterait Marie avec son fils dans une triade divine, nous pouvons relever des approches de la dignité de Marie qui se prolongent dans la dévotion populaire. Les théologiens, répondant généralement par la négative, se demandent si Marie n'a pas reçu la dignité de prophète au sens large du mot. Ils lui reconnaissent par contre celle de la sainteté ou de l'amitié avec Dieu. Les privilèges qui lui furent accordés font partie des libéralités exceptionnelles que Dieu peut accorder à ses amis. Marie et son fils furent ainsi préservés de tout contact avec Satan. Marie est celle qui a cru, la véridique, celle qui est fidèle. Marie est placée au-dessus de toutes les femmes par le Coran. Cette dernière affirmation entre en concurrence avec la tendance de la tradition de lui associer les femmes préférées du prophète, Khadija, sa première femme, Aïcha, sa plus jeune femme, et surtout Fatima, sa propre fille, la seule qui lui ait donné des petits-fils une descendance mâle. La solution moyenne habituelle est que Fatima et Marie sont supérieures l'une à l'autre, mais à des points de vue différents. Dans le chiisme, deux tendances sont présentes. Soit Marie et Fatima sont condensées, mais sans confusion. Soit Fatima, dans une conception cyclique de l'histoire, est l'incarnation dans le cycle de Mohammed de l'esprit de Marie. Au niveau populaire, certaines régions connaissent dans l'éducation des filles une sorte d'imitation de Marie. Son nom est donné à des enfants, sa foi est donnée en exemple, voire Marie en songe joue un rôle dans l'interprétation des rêves, et des femmes musulmanes ont recours à elle en temps de difficulté en visitant des sanctuaires chrétiens, hein, que ce soit des sanctuaires anciens comme Éphèse ou Notre-Dame d'Afrique, sanctuaires plus récents à Alger. Ce sont un des lieux où les musulmans aiment se rendre. Donc on voit que Marie tient une place importante dans les représentations et la foi, la dévotion des croyants musulmans. Quelques mots alors à propos de représentations ultérieures de la figure de Jésus, hein, après avoir donné les données coraniques et traditionnelles, avoir relevé, pointé quelques enjeux importants au niveau de la compréhension et de la cohérence religieuse de ces figures dans l'islam. Il y a quelques percées qui vont au-delà de ces données traditionnelles. D'une part, dans la mystique musulmane, le rôle de Jésus dans la méditation des mystiques n'est pas central, mais il n'est pas non plus sans importance. Jésus est décrit sous les traits des ascètes et des moines chrétiens, port d'une tunique de laine, détachement de ce monde, vie de solitude itinérante, pouvoir initiatique opérant des guérisons. Il est l'imam des errants. La littérature met en évidence la pauvreté du fils de Marie, son détachement du monde, son enseignement, son esprit de prière. Et quand des soufis eurent un contact direct avec les évangiles, ils y puisaient les éléments qui correspondaient davantage à leur conception ascétique qu'ils attribuaient eux-mêmes à Jésus. Dans ce cadre, le Jésus présenté par Ghazali, par exemple, est un modèle de pauvreté et de renoncement. Et en contraste avec cette image d'un Jésus plutôt ascète et vagabond, d'autres mystiques traceront de lui une figure lumineuse à travers une interprétation ésotérique des versets coraniques. Les versets coraniques ont une signification cachée que seul celui qui possède les connaissances des secrets peut découvrir. Ibn Arabi, par exemple, est un célèbre représentant de cette tendance. Il scrute les passages du Coran où il est question de la conception virginale, de la parole de Dieu, de l'esprit venant de Dieu. Il reste fidèle à la conception musulmane de Jésus, prophète de l'islam, tout en faisant du Jésus historique et du Mohammed historique des manifestations d'un idéal transhistorique. Nous n'entrerons pas dans le détail de sa pensée à propos de Jésus qui nécessiterait d'aborder l'ensemble de son système. Signalons seulement que pour lui, la loi de Jésus comme prophète sera abrogée par celle de Mohammed, le sceau des prophètes, mais comme splendeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu, Jésus reste aux yeux de Ibn Arabi le sceau de la sainteté. Cette intuition était déjà présente chez d'autres mystiques, mais reprise dans le système de Ibn Arabi, elle confère en quelque sorte à Jésus un espèce de rôle transhistorique inégalable. Bien avant Ghazali ou Ibn Arabi, Al-Hajj, qui a beaucoup inspiré Louis Massignon, avait vécu à la fin de sa vie une étonnante conformation à la passion de Jésus qui a profondément marqué Louis Massignon. Il sera accusé, il y aura des dépositions de faux témoins, flagellé, crucifixion, pardon des ennemis. Dans la pensée chiite, Jésus, comme je le signalais déjà tout à l'heure, a une place moins importante que dans le sunnisme, car il passe après les imams. En effet, le propre du chiisme est de croire que Dieu, après avoir envoyé Mohammed, le sceau des prophètes, pour apporter au monde la loi définitive, continue à assister et inspirer parmi les descendants que lui ont donné sa fille Fatima et son cousin Ali, des hommes chargés de conduire et d'éclairer sa communauté. Ces hommes sont les imams. Plusieurs d'entre eux ont laissé divers propos ou sentences réunis et conservés par leurs fidèles. Et les différents groupes chiites retiennent des listes de 7 ou de 12 imams qui sont ainsi pour eux des références. Jésus a donc une place plus marginale dans cette pensée. Toutefois, il y a un point original qui retiendra sans doute plus l'attention des chrétiens. C'est que certains penseurs ou poètes chiites ne dédaignent pas à admettre la crucifixion de Jésus. Et ce point peut être plus facilement compris si on se rappelle que la sensibilité religieuse chiite est moins étrangère aux notions de mort violente et de sacrifice qui ont dû être intégrées à la tradition dès le départ, suite aux morts violentes de Ali et de son fils et successeur Hussein. Le signe de la croix est parfois présent dans la poésie persane et ourdoue comme symbole de souffrance et de sacrifice. Et l'exemple le plus souvent cité est celui des épîtres de Erwan et Safa, les frères de la pureté. Bien que leur identité précise soit toujours l'objet de discussions et de recherches, ils sont généralement considérés comme ismaéliens et ils sont marqués par le dualisme néoplatonicien. Et de ce point de vue, l'âme qui est impérissable est étrangère dans le corps, prisonnière de ce monde matériel dont elle aspire à se détacher. Seule la mort la libère et la restitue à son origine, tandis que le corps lui-même se désagrège et se détruit sans retour. Donc, dans une pensée de ce type dualiste, on voit que la mort a une autre fonction, elle a une fonction de libération. Et donc, il est plus facile, évidemment, d'intégrer alors l'élément de la crucifixion de Jésus qui est présent dans la quatrième épître de Erwan As-Safa. Vous verrez dans les notes la mention de deux romans du XXe siècle. On a effectivement, au cours du XXe siècle, vu paraître quelques livres, surtout en Égypte, plus ou moins littéraires ou doctrinaux, sur Jésus. Alors, il y en a certains qui se contentaient de reprendre les données traditionnelles, mais il y en a d'autres qui voient en Jésus un cas exemplaire et actuel de libération de l'homme. C'était dans une perspective de théologie de la libération, de rechercher les sources spirituelles qui peuvent contribuer à la promotion socio-économique et à la libération des plus pauvres, de justes persécutés, de révélateurs des consciences, de héros, de porte-parole de l'amour universel. Et parmi ces différentes publications, il y en a deux, des années 50, qui ont eu à l'époque un réel retentissement. D'une part, le génie du Messie, de Abbas Mahmoud el-Aqad, et une cité inique du docteur Camille Hussein, 52 et 54. Pour terminer, quelques mots alors des lectures non musulmanes des données coraniques sur Jésus. Effectivement, dans les lectures ultérieures que j'ai mentionnées maintenant, on se situait toujours au sein même de l'islam, soit dans la mystique musulmane, même si elle est contestée par un certain nombre de musulmans et soupçonnée d'hétérodoxie, mais ce sont quand même néanmoins des gens qui se disent musulmans. La pensée chiite, bien sûr, pensée musulmane, plus sensible à cette notion de souffrance et de sacrifice par son histoire et sa tradition. Les auteurs égyptiens du XXe siècle en littérature, des gens de tradition musulmane aussi, mais qui réexploraient la figure de Jésus. Mais les lectures, les données traditionnelles et coraniques ont également été l'objet de lectures qui sortent de l'islam. Nous l'avons vu, le texte coranique laisse des ouvertures pour des lectures qui prennent distance par rapport à l'interprétation traditionnelle dominante, mystique, chiisme, etc. Mais d'autres lectures ont par contre quitté le domaine de l'islam. Ces interprétations sont marginales et entrent bien sûr en contradiction avec la cohérence d'ensemble du Coran. Mais le texte peut parfois y inviter un lecteur curieux ou en quête spirituelle. Et c'est le cas de certains convertis de l'islam au christianisme qui ont découvert le Christ de la foi chrétienne à partir d'interpellations ou d'interrogation qu'il percevait dans la figure de Issa dans le Coran. Et je cite alors en note un livre qui commence à dater un peu, de 1991, du père Jean-Marie Gaudel, qu'il avait intitulé « Appelé par le Christ, ils viennent de l'islam », où il a essayé de retracer, de classifier une série de profils de convertis musulmans pour essayer de percevoir les cohérences de leur itinéraire spirituel qui les a conduits à devenir chrétiens. Et il consacre un chapitre en particulier dans ce livre à ceux qui ont découvert le Christ de la foi chrétienne à partir de leur curiosité sur le Jésus, Issa, du Coran. Comme je vous le disais, bien sûr, les traits propres de Jésus dans le Coran peuvent s'expliquer parfaitement dans une cohérence coranique stricte, mais en même temps, si on les isole du reste du contenu, un curieux peut avoir l'attention attirée et explorer un peu plus loin ces signes et être tenté de venir frapper à la porte des chrétiens pour découvrir ce qu'eux-mêmes disent de Jésus. Et certains, alors, trouveront dans la réponse chrétienne sur l'identité de Jésus la réponse aux questions qu'ils se posaient en découvrant les traits du Jésus du Coran et de la tradition. C'est évidemment tout à fait marginal, mais c'est une possibilité de lecture non musulmane des données coraniques. Dans un tout autre genre, il y a eu aussi un ouvrage dont la méthode est discutable, qui a proposé toute une lecture chrétienne du Coran à partir des figures de Jésus et de Marie, pour y voir une préparation évangélique. C'est un livre en italien, Per Bassetti Sani, Maria e Gesù, figlio di Maria nel Corano, où il veut voir dans les figures de Jésus et de Marie dans le Coran, comme une préparation évangélique pour les musulmans, par ces deux figures. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, parce que les figures, comme j'ai essayé de le montrer, de Jésus et de Marie dans le Coran, ont leur parfaite cohérence dans une perspective musulmane traditionnelle, tout en étant tout à fait différente, évidemment, par rapport à la lecture chrétienne. Et je vois qu'il est déjà l'heure. Donc, cette séance clôturait un petit bloc de trois séances de théologie comparée. Et après l'ascension, puisque jeudi prochain nous n'avons pas cours, nous nous retrouvons dans 15 jours, nous nous intéresserons plus précisément à la problématique de la rencontre islamo-chrétienne. Je rappelle également qu'il y avait eu une petite erreur dans la version imprimée du dépliant et qu'il y a donc bien encore cours également le 4 juin. Donc il nous reste trois séances après l'ascension. Bonne soirée.